L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Guy.
Il est 5h pile au FM 93. Bienvenue dans l'amorce, dernière de la semaine. Déjà vendredi, on est le 11 octobre 2019. Bientôt la fin de semaine, long week-end. J'espère que vous pourrez en profiter. Long week-end pour la plupart des gens. Évidemment, on a toujours une pensée pour ceux qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent pendant les longs week-ends. Mais ceux qui ont droit à un congé de 3 jours, je vous le souhaite agréable et reposant. Pour ce qui est de la fin de la semaine, côté météo, on a encore des bonnes nouvelles. On a eu une magnifique semaine jusqu'à maintenant en termes de température, en termes de conditions également. On a eu droit à beaucoup de soleil. Et ça se poursuit aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Maximum de 15 degrés aujourd'hui avec alternance de soleil et de nuages. Pour ce qui est de la nuit prochaine, on devrait descendre à 8 degrés et par la suite, on va aller chercher 12 degrés pour demain samedi. C'est moins beau qu'aujourd'hui, mais un peu mieux que ce qu'on prévoyait un peu plus tôt cette semaine quand même. Donc le maximum 12 degrés et 30% de risque d'averse le matin et par la suite, ça devrait se dégager. On devrait voir le soleil un peu. Dimanche, à peu près le même scénario, sauf qu'on double le pourcentage de possibilité d'averse. On est à 60%, 13 comme maximum, avec également des percées de soleil. Et lundi, pour le congé de l'Action de grâce, maximum de 10 degrés avec de la pluie intermittente. Alors quand même, pas un portrait si négatif pour les prochains jours côté météo à Québec. Et pour le moment, pour se réveiller, on a 5 degrés du côté de Québec. On y va avec l'actualité de ce matin, de ce vendredi 11 octobre 2019. C'était le dernier débat des chefs dans la campagne électorale. Et je regardais passer un peu sur les médias sociaux les analyses, les réactions des gens. Bon, évidemment, il y a des gens qui cherchent vraiment à analyser le débat, qui gagne, qui perd et tout ça. Mais j'ai vu beaucoup de personnes aussi qui disaient qu'ils étaient un peu plus capables de la campagne électorale. Ben sachez que c'était le dernier débat. Donc ça achève. Il reste à peine une semaine à la campagne électorale. Après ça, les gens vont aller voter le 21 octobre. Et d'ailleurs, c'est possible de voter dès maintenant parce que la période de vote par anticipation commence aujourd'hui. En fait, c'est aujourd'hui jusqu'à lundi. Donc de vendredi à lundi, c'est possible de voter par anticipation. Il y a des bureaux qui sont dédiés à ça dans les différentes circonscriptions. Donc, si vous êtes vraiment plus capable de la campagne, allez voter puis régler votre problème assez rapidement. Mais donc, compte tenu du fait que c'était le dernier débat, on va prendre le temps vraiment de le décortiquer, d'écouter les meilleurs moments ou en tout cas les échanges qui semblent avoir été le plus percutant dans ce débat-là qui, selon les analystes, n'a pas fait de grand vainqueur. Vous vous souvenez qu'au premier débat, on avait un peu sorti Yves-François Blanchet comme le numéro un, celui qui s'était le plus distingué. On avait dit qu'Andrew Scheer avait eu beaucoup de problèmes. Là, dans le débat d'hier, il n'y a pas vraiment de personne qui s'est élevé au-dessus de la masse. Scheer n'a pas particulièrement eu l'air fou. Bon, évidemment, son français n'est pas excellent. Yves-François Blanchet, on connaissait déjà un peu ses positions, sa façon de s'adresser aux gens. Donc, peut-être que l'effet de surprise positif était moins là un petit peu. Justin Trudeau s'est pas vraiment mis les pieds dans les plats. Et les autres, Jagmeet Singh a été égal à lui-même. Encore une fois, même sur les médias sociaux, j'ai vu passer très sympathique, chaleureux. Les gens semblent le trouver très, très très agréable comme personne, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il va augmenter nécessairement dans les intentions de vote. Il stagne pas mal là, du côté du NPD depuis le début de la campagne électorale. Et bon, Bernier et Elisabeth May ont été égaux à eux-mêmes, c'est-à-dire sont restés assez fidèles aux lignes qu'on leur connaît, avec Bernier qui a dû se défendre notamment sur l'environnement, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Ça a été moins cacophonique aussi que le fameux débat en anglais lundi où est-ce qu'il y a eu plusieurs moments où est-ce qu'on n'entendait absolument rien et qu'à certains moments aussi, certes, il y avait des mini-débats au sein même du débat. Par contre, il y a eu quand même un moment particulièrement cacophonique que je vais vous faire entendre où est-ce que l'animateur Patrice Roy a dû intervenir. Alors, on en était à couper les micros, là. C'était là où Patrice Roy était rendu. Sauf que, soyons honnêtes, là, c'est pas l'ensemble de la soirée qui a été à ce point cacophonique. Mais là, on a eu un débat où est-ce qu'on n'entend absolument rien. Dans ce temps-là, quand on se demande c'est qui le gagnant du débat, c'est certainement pas l'électeur quand on comprend absolument rien de ce que les chefs disent. Bon. On a ouvert le débat avec la question de l'environnement. C'est ce qui a vraiment occupé une bonne partie des premières minutes du débat. Et Elisabeth May, évidemment, c'est son champ de prédilection, l'environnement. Et lorsqu'elle s'est exprimée sur ses positions, elle a fait appel à nul autre que Greta Thunberg.
La vraie réalité, c'est que la situation maintenant, c'est une situation d'urgence climatique. Je parle de fond de mon cœur, parce que le temps presse, et maintenant tous les autres chefs ici, dans la scène avec moi, il n'y a personne avec un plan qui marche pour éviter le pire. Greta Thunberg a raison. Notre maison est en feu. Comment osez-vous?
Alors, elle a pris carrément la phrase de Greta Thunberg. Là, on comprend que c'était préparé. Mais c'est peut-être son moment le plus spectaculaire du débat. Elisabeth May. Il y a Jack Meeting, lui, qui aime bien envoyer des petites pointes d'humour par-ci, par-là. Il est, comme je vous dis, très chaleureux, très sympathique. Même dans le débat, c'est pas un gars qui est très méchant envers ses adversaires non plus. On le sent pas trop agressif. Et quand il a été question d'environnement, il a été question notamment de pipeline et de position des différents chefs sur le pipeline ou l'établissement d'oléoduc partout à travers le Canada. Particulièrement pour passer par le Québec. Et Jack Meeting a donné un surnom à la plupart de ses adversaires présents sur le plateau.
Pour les spectateurs, ici c'est M. Pipeline, ici c'est M. Pipeline encore, et M. Trudeau, je pense aussi c'est M. Pipeline. Moi, je suis Jack Meeting. Je ne vais jamais imposer un pipeline sur le Québec. C'est clair.
La création de la famille Pipeline par M. Singh, qui a essayé de se distinguer de ses adversaires par rapport à cette position-là. Évidemment, Maxime Bernier, côté environnement, ben, c'est le seul qui est considéré comme un climato-sceptique parmi les différents candidats. Alors, il a reçu une question d'un des modérateurs, d'un des animateurs de la soirée, d'un des journalistes qui était présent. Il s'est fait demander pourquoi, M. Bernier, vous n'adhérez pas au consensus scientifique. Pourquoi vous reniez la science? Voici la réponse de Maxime Bernier.
Premièrement, je ne renie pas la science. Et deuxièmement, il faut bien dire qu'il y a 500 scientifiques à travers le monde qui ont écrit au secrétaire général de l'ONU pour dire qu'il n'y avait pas d'urgence climatique. Donc, je ne suis pas le seul. Il faut bâtir des politiques publiques, non pas sur des sentiments et une urgence qui n'existe pas, mais sur les faits, sur la raison. Et ce qu'on demande, qu'il y ait encore plus d'études sur l'impact du soleil par rapport au changement climatique. Les études qui ont eu actuellement était seulement sur l'impact du CO2. Et si vous voulez vraiment atteindre les cibles, Elisabeth a la raison. Elle a des cibles qui vont faire en sorte qu'on va atteindre les cibles de Paris, mais elle va détruire l'économie, comme vous l'avez dit plus tôt. C'est la seule chef qui est crédible, tout en détruisant l'économie.
D'accord ou pas, faut donner ça à Maxime Bernier. Quand il s'est exprimé au débat d'hier, il était assez solide. Il semblait bien préparé aux questions. Il était capable de bien répliquer aussi. On va lui donner ça à Maxime Bernier. Il avait une bonne capacité aussi à s'exprimer, évidemment. Bon, c'est sa langue maternelle, donc ça paraît aussi, là. Et François Blanchet et Maxime Bernier se distinguent par leur capacité à maîtriser leur langue maternelle. Mais il faut dire que Maxime Bernier semblait assez bien préparé. Puis lui, c'était sa seule présence en français. Il n'était pas présent au face-à-face, le premier débat en français. Donc ça y a peut-être permis d'exposer ses idées, les idées du Parti populaire du Canada. Et François Blanchet, toujours en environnement un peu, s'est fait questionner sur sa position sur le troisième lien. Ça va peut-être vous intéresser, la position de François Blanchet sur le troisième lien. On sait que les conservateurs, c'est sans équivoque, c'est un appui. On dit on va appuyer financièrement aussi un troisième lien Québec-Lévis. Chez les libéraux, c'est on sait pas trop, c'est coup ça, on attend de voir des choses. Justin Trudeau a dit le projet n'existe pas. Ben, Yves François Blanchet est pas beaucoup plus clair que Justin Trudeau. On l'écoute.
D'abord, je n'ai pas appuyé le troisième lien. J'ai dit que j'étais pas contre et j'ai dit que j'étais pas pour. Pour une raison fort simple. D'abord, le ministre de l'Environnement vient de commander un BAP. Je respecte le BAP. Si on demande à une institution de faire une analyse environnementale d'un projet, on va attendre l'analyse environnementale du projet. Et ultimement, le troisième lien relève exclusivement du gouvernement du Québec et non pas du fédéral.
Alors, ni pour ni contre. Il a carrément dit ça. Il n'y a pas vraiment de position. Et lui, attend le BAP, finalement, pour se prononcer. De toute façon, entre vous et moi, l'influence du Bloc québécois sur la réalisation du tunnel Québec-Lévis est pas extrêmement élevée, ne sera pas extrêmement importante. Mais vous avez au moins la position de François Blanchet pour vous faire une tête si vous comptez voter en lien avec cet enjeu-là. Andrew Scheer a eu une prise de bec avec Maxime Bernier, deux anciens collègues conservateurs, évidemment, qui s'aiment peut-être un petit peu moins qu'avant. Lorsqu'on parlait de taxes, d'imposition de taxes sur les pollueurs, Andrew Scheer s'est défendu de vouloir imposer des taxes quelconques là-dessus. Il a dit « Moi, je vais imposer aucune taxe. » Et Maxime Bernier a tenté de renchérir et d'embarquer dans la conversation. Et là, on a eu peut-être un des bons directs, des bons coups de poing de la soirée de la part d'Andrew Scheer à l'endroit de Maxime Bernier.
« J'ai aucune taxe dans mon plan, M. Bernier. »
Vous imposez, M. Scheer, des tarifs élevés aux grands émetteurs et des subventions en plus.
Maxime, tu ne vas rien imposer. Tu ne vas même pas gagner en bourse, OK?
On dit blanc dans les dents, là, c'est un peu ça. Là. Franchement, il l'a bien envoyé, celle-là, M. Scheer. Il faut dire qu'effectivement, Maxime Bernier, dans sa circonscription en Beauce, est menacé en ce moment. Là. Le candidat conservateur est presque nez à nez avec lui. Donc, il n'y a rien de joué présentement du côté de Maxime Bernier pour ce qui est de sa propre survie politique. Alors, Andrew Scheer a eu l'occasion de lui envoyer quelque chose et ça a été bien fait de son côté. Évidemment, il a été question encore une fois de la loi sur la laïcité au Québec. On a beaucoup de redites. Là. Je vous ferai pas passer tout ce qui s'est dit hier soir en lien avec ça. Par contre, on a questionné Justin Trudeau sur un éventuel test de valeur. Vous savez que c'est un des engagements de la CAQ au Québec en lien avec l'immigration. Test de valeur pour, en quelque sorte, sélectionner les immigrants. Et Justin Trudeau, de façon assez surprenante, s'est positionné relativement en faveur avec la position de la CAQ, ou en tout cas, a affirmé que le Québec avait le droit de faire ça.
D'ailleurs, s'ils veulent appliquer un test lors du certificat de sélection, c'est tout à fait correct et c'est approprié qu'ils le fassent. On reconnaît l'importance que le gouvernement de Québec ait plus de contrôle sur l'immigration. C'est quelque chose que nous avons toujours bien travaillé avec le gouvernement du Québec depuis 4 ans dessus.
Vous noterez la formulation en français de Justin Trudeau qui est très, très anglaise. On a bien travaillé le Québec dessus là depuis 3 ans. C'est vraiment assez mal formulé. On voit qu'en français, là, Justin Trudeau, il est très, très calqué sur l'anglais. Là. Ça se traduit dans ses formulations un peu boiteuses. Il est moins solide que ceux dont le français est la langue maternelle. Alors que c'est sa langue maternelle, mais ça paraît qu'il pratique pas beaucoup son français, Justin Trudeau. Alors, il semble, pour ce qui est d'un test d'immigration, test de valeur pour les immigrants, semble pas trop opposé ou en tout cas semble vouloir respecter les compétences du Québec dans ce domaine-là. Le spectre de la souveraineté a été agité par Andrew Scheer pendant la soirée contre Yves-François Blanchet, bien entendu. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a des prises de bec, des échanges en lien avec ça. Bon, c'est quoi le véritable objectif du Bloc québécois? Évidemment, les conservateurs, les libéraux vont mettre l'accent sur le fait que c'est pas un parti qui peut être au pouvoir. Sauf qu'hier soir, Andrew Scheer est allé un peu plus loin en affirmant qu'Yves-François Blanchet allait tout faire pour faire la souveraineté du Québec si les Québécois votaient pour lui.
Le 21 octobre, c'est pas un référendum sur la souveraineté, c'est une élection fédérale où le Bloc québécois dit aux Québécois, n'envoyez pas à Ottawa des gens qui vont défaire ce que vous avez demandé à ceux de Québec de faire.
La chose que j'ai dit, c'est que vous prétendez être le meilleur ami de M. Legault. Vous cachez vos intentions.
Jamais rien du
vous
tel.
Cachez vos intentions actuelles pour gagner les sièges. Alors vous pouvez réanimer le mouvement souverainiste le lendemain après les élections.
Continuez de même, puis vous êtes
c'est
très
votre
bon
priorité.
Pour
On va le répéter encore une fois, le Bloc québécois, c'est un parti ouvertement souverainiste. Alors, c'est pas une grosse surprise de dire qu'Yves-François Blanchet veut travailler pour la souveraineté du Québec ou peut avoir des accointances de point de vue avec le Parti québécois. C'est un peu sa raison d'être au Bloc québécois. Mais effectivement, au fédéral, à la Chambre des communes, ben, leur travail, c'est d'essayer de faire avancer les intérêts du Québec le plus possible. En tout cas, c'est leur volonté de le faire. Et c'est pourquoi le meilleur souhait, le meilleur scénario pour Yves-François Blanchet le 21 octobre, ce serait un gouvernement minoritaire, qu'ils soient libéral ou conservateur, avec eux suffisamment de députés pour détenir la balance du pouvoir pour les votes à la Chambre des communes, ce qui leur permettrait de faire avancer l'agenda bloquiste et les priorités de leur parti. C'est le meilleur scénario qu'ils peuvent espérer, évidemment, le 21 octobre. Ça, c'était les points saillants, importants, les points les plus importants du débat hier soir. Je vous dirais, comme vous l'avez noté, il n'y a pas eu beaucoup de grandes chicanes, quelques bonnes lignes, mais pas de prise de bec majeure. Il y a eu un moment assez touchant hier soir lorsque, vous savez que dans les débats, souvent on fait appel à des citoyens pour poser des questions. Et il y a une dame de Montréal qui en a posé une au chef de parti hier. Il s'agit de Lise Pigeon. C'est une dame qui est atteinte à la fois de la sclérose en plaques et d'arthrite rhumatoïde, une dame qui souffre énormément et qui a interpellé les chefs de parti par rapport à la question de l'aide médicale à mourir. Vous savez que dans les dernières semaines, il y a eu une invalidation d'un article de loi sur l'aide médicale à mourir, que ce soit au Québec ou au Canada, le fait que la mort doive être raisonnablement prévisible. Cet article-là, on a dit, bon, non, ça marche pas, on va juste garder le facteur de la souffrance importante qui peut pas être soulagé. Et les gouvernements se sont engagés à ne pas aller en appel de cette décision-là. Et la dame en question, Lise Pigeon, a demandé au chef en direct de réaffirmer qu'il n'irait pas en appel de cette décision-là. Tout le monde a été unanime là-dessus. là-dessus. Tout le monde a appuyé Mme Pigeon dans sa question et dans sa volonté d'avoir des mesures plus souples pour l'aide médicale à mourir. Pour résumer le point de vue de tout le monde, je vous fais écouter Justin Trudeau à ce sujet.
Oui, nous allons alléger la loi dans les prochains 6 mois. Et on comprenait, même il y a 3-4 ans, quand on a amené cette loi-là, que les tribunaux, la société, tout allait évoluer et nous, on va évoluer avec.
Alors, qui a gagné ce débat? Est-ce que c'est un match nul, comme la plupart des analystes le disent? Est-ce que vous avez trouvé qu'un chef s'est distingué hier? Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre opinion, dans vos intentions de vote? 25-226, écrivez-moi. Ça me ferait plaisir de lire si ce débat-là a cristallisé votre opinion ou a changé votre avis par rapport à cette campagne électorale-là. Du côté des chefs de parti, ben c'est le dernier sprint qui s'amorce avant l'élection générale du 21 octobre. Mais comme je vous le mentionnais, dès aujourd'hui, c'est la possibilité de voter par anticipation puisque la période de débat est terminée. 4 jours de vote par anticipation qui sont possibles pour vous à compter d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Il est 5h15, courte pause, on vous revient.
FM 93.
Que Québec se lève avec Myriam Segal
et Pascal Caron-Vézina.
Samedi et dimanche matin, dès 7h, au FM 93.
Voici une histoire vraie. Harold est travailleur autonome, un super bon gars, toujours avec le sourire, qui aide tous ses amis, prêt à un, prêt à l'autre. Il finit par s'endetter jusqu'au cou et il en perd son sourire. Il raconte son histoire à sa grande amie Jacqueline qui dit quoi?
Va donc rencontrer l'équipe de Jean Lelièvre Syndic autorisé en insolvabilité.
Ça lui a coûté 500$ par mois pour 60 mois et maintenant, la tempête est passée. Et le plus important, il a retrouvé son sourire. Faites comme Harold, visitez jeanlelièvresyndic.com.
Vos lunettes à partir de 79$. La deuxième paire à 25% de rabais. C'est la révolution Scoop Vision.
Scoop Vision ébranle encore le marché. Sur la deuxième paire de lunettes, vous obtenez 25%.
Vous avez donc deux paires de lunettes à partir de 138$.
Le tout prêt en une heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter votre prescription.
Vos lunettes au prix d'Internet en succursale, c'est Scoop Vision. Sur Soumand, Kennedy-Lévis à Saint-Georges et maintenant sur Quatre-Bourgeois en face de la gare d'autobus.
Une étude clinique chez Syneos Health, c'est aussi sécuritaire que mettre des petits trous sur votre vélo stationnaire et de porter un casque. Bref, vous êtes entre bonnes mains. Et en ce moment, on est à la recherche d'hommes et de femmes non-fumeurs âgés de 18 à 55 ans pour conduire une étude clinique. Les compensations peuvent aller jusqu'à 5 000$. Rendez-vous sur monétudesineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. Syneos Health. Pour un futur en santé.
OK, fallait partir le feu de camp. Il restait juste une allumette. Il a commencé à pleuvoir et là...
Jusqu'au 14 octobre, profitez du solde de l'Action de grâce chez Sale. Obtenez 25$ de rabais à chaque tranche d'achat de 100$ sur les vêtements, chaussures et sacs sélectionnés.
Toute bonne histoire commence chez Sale.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Laissez votre chaise roulante dehors, s'il vous plaît.
Ma chaise roulante?
Pas de chaise roulante dans le dépanneur.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, les chaises roulantes restent dehors, là, c'est... C'est le règlement.
Quel règlement?
Et le règlement.
Ben là, je suis pas pour ramper. Ah ouais?
Demander à quelqu'un de se séparer de sa chaise roulante, ça ne se fait pas. Demander à quelqu'un de se séparer de son chien d'assistance Mira, ça ne se fait pas non plus. C'est la loi.
Cette chanson est encore vivant ou non?
Le sel ou le volant? Choisis. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Ici Pierre Lavoie du Grand Défi. Joignez-vous à nous le samedi 19 octobre prochain lors de la Grande Marche de Québec. Rendez-vous dès 10h à la Fontaine de Tourny, face au Parlement pour le spectacle de Brigitte Boisjoli et pour marcher 5 km. Inscription gratuite sur enmarche.com.
Allô, c'est José. Vous le savez maintenant, Doc Mayou et moi, on adore vous rencontrer devant un repas extraordinaire. C'est pourquoi on vous invite à la 3e édition de la soirée cétogène FM 93 au Parmesan. Un repas quatre services avec le vin 100% cétogène, planifié par moi-même et l'incroyable équipe du Parmesan. Vous aimeriez gagner votre place? Inscrivez-vous sur fm93.com et écoutez Doc Mayou et José. La 3e édition de la soirée cétogène du FM 93, une collaboration du restaurant Parmesan.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
On est de retour, 5h19 dans l'amorce. Merci de vous joindre à moi. Vendredi, on est le 11 octobre 2019. Il vous reste une journée de travail et c'est le long week-end. Je vous le souhaite reposant et agréable dans les trois prochains jours. C'est le week-end de l'Action de grâce. Qu'est-ce qui nous attend à la météo? Quand même de bonnes nouvelles parce que au début de la semaine, quand on regardait pour le week-end, c'était nuageux, de la pluie presque à 100%. Ça a changé un petit peu. Pas parfait, mais évidemment, on est en plein milieu du mois d'octobre. On peut pas demander des températures estivales. Aujourd'hui, vendredi, on est un peu dans la même veine que cette semaine. Donc, une journée qui est très agréable côté température. Maximum de 15 qui devrait être atteint avec alternance de soleil et de nuages. Demain, samedi, un peu plus frais, maximum de 12 avec 30% de risque d'averse le matin. Par la suite, un dégagement qui est attendu. Donc, on devrait voir le soleil en après-midi. Dimanche, maximum de 13 degrés avec 60% de risque d'averse cette fois-ci. Et lundi, un peu plus à long terme, pour le congé, pour conclure le long congé, maximum de 10 avec de la pluie intermittente pour le 14 octobre. Et présentement, on a 7 degrés à Québec. Donc, j'espère que ça reste comme ça un petit peu ou même peut-être que ça s'améliore dans les prochaines heures. On continue notre petit tour d'horizon de l'actualité. Il y a beaucoup de choses ce matin, là. Évidemment, avant la pause, on est allé du côté du débat. On délaisse un peu la campagne électorale fédérale. Il y a une grosse nouvelle qui est sortie hier matin, là, c'était à la toute fin de l'émission de Bouchard en parle, et c'était une sortie de Michel Dallaire dans le Journal de Québec concernant le report de la construction du phare de 2 ans, au moins jusqu'en 2021, et ce en raison d'une révision de la part du RTC et de la Ville de Québec, du pôle d'échange du réseau de transport structurant qui devait se trouver là. Ça fait en sorte, concrètement, là, à court terme, les effets immédiats, 70 personnes ont perdu leur poste au sein du groupe Dallaire hier. Pas une très bonne nouvelle pour eux autres, évidemment. Et là, on a un petit peu plus de détails parce que pendant la journée hier, Rémi Normand du RTC est revenu un peu sur la nouvelle puis l'explication autour du pôle d'échange. Il y a apparemment qu'il y a eu des changements aussi là, en lien avec le pôle. Au départ, c'était pas quelque chose qui était prévu de faire entrer, par exemple, des autobus de la rive sud dans le terminus. La question du tramway aussi. Là. Je vais vous citer un peu ce que Rémi Normand a dit hier en point de presse en lien avec le pôle d'échange. Normand a dit, imaginez, il va y avoir des bus de la Rive-Sud qui vont entrer. Le tramway va être là avec un corridor de connexion au pôle. Les bus du RTC vont entrer, les express, les métrobus et tout ça. Alors, il faut vraiment le penser comme il faut. C'est une question d'emplacement. Est-ce qu'on permet aux autobus de la Rive-Sud de rentrer dans le terminus? Est-ce qu'on fait le terminus ailleurs dans le secteur? Mais malgré ça, et puis bon, je vous avoue que je trouve ça un petit peu bizarre que on soit pas prêt plus que ça par rapport au pôle d'échange. Ça fait un certain nombre de temps qu'on y pense. Même le maire Labeaume, quand on le questionne, il dit souvent, ben, ça fait des années et des années qu'on élabore le projet. Puis là, ben, ce pôle d'échange majeur-là, on semble même pas tout à fait en mesure de dire quelle forme il va prendre exactement. Mais lui, malgré tout, M. Normand dit que d'ici 2026, le tramway va rentrer en service tel que prévu. Les travaux seront pas plus retardés que ça. Et apparemment qu'il y a des discussions avec la MTQ depuis avril en lien avec cette révision un peu du pôle d'échange. L'autre point qui retient mon attention et qui risque d'alimenter les discussions aujourd'hui, c'est à la une du Journal de Québec. Et je vous le dis tout de suite, il y a une décision de Cogeco qui préfère ne pas nommer les gens qui sont impliqués dans cette affaire-là. Donc, je ne nommerai pas les personnes. Ça change pas grand-chose à la nouvelle, de toute façon, d'avoir le nom exact des personnes derrière ça. Mais sachez qu'à la une du Journal de Québec, ce matin, on a une grosse photo et titré « C'est lui » qui montre l'employé de Desjardins qui aurait été renvoyé suite à la fuite de 2,9 millions d'abonnés Desjardins, les données personnelles de 2,9 millions d'abonnés Desjardins il y a de ça quelques mois. Et on apprend que ce matin que cette personne-là, dans le fond, aurait surtout agi comme pion, aurait été un peu à la solde d'autres personnes qui, elles, voulaient se procurer ces données-là et se sont servies de lui un peu comme proxy, comme personne qui était au sein même de l'entreprise puis qui avait accès aux données pour, eux, après ça, les revendre aux plus offrants. Mais l'individu en question a été confronté par les journalistes de JE à son appartement. On a cogné à la porte, évidemment, le gars était un peu terrorisé, dit que depuis que son nom est sorti dans les médias, dans certains médias, ben, il a reçu des menaces de mort, il craint un peu pour sa sécurité. C'est notamment pour ça qu'une loi non écrite un peu qui fait en sorte que jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'accusation, ce qui est toujours pas le cas. Habituellement, on nomme pas les gens, mais il semble que certains médias aient décidé de le faire, là. Mais cet individu-là dit qu'il craint pour sa sécurité maintenant, puis il dit c'est pas ça que je voulais qu'arrive finalement. J'ai donné ça à un ami, j'ai vendu ça à un ami, j'ai même pas fait d'argent avec ça. Il dit que c'est fait payer en carte cadeau Saint-Hubert puis carte cadeau d'épicerie. Imaginez-vous. une des fuites les plus importantes de l'histoire du Québec en matière de sécurité personnelle. Puis c'est un gars qui s'est juste fait quelques milliers de dollars en carte cadeau. Là. Faut le faire quand même. Ça, évidemment, c'est sa version à lui. Là, on n'a pas tous les détails, on n'a pas tous les faits, mais si vraiment c'est un pauvre type qui a décidé de faire ça pour avoir des cartes cadeaux, c'est drôle de motivation, franchement. Mais derrière ça, les gens qui auraient tiré les ficelles, un de ses amis, premièrement, qui serait un prêteur privé, qui avait une firme de prêt privé, quelqu'un qui a déjà été, qui a déjà reçu un avis d'infraction de la part de l'Office de la protection du consommateur parce qu'il aurait fait du prêt à des taux usuraires jusqu'à 467% par an, alors que la loi au code criminel, c'est, tu peux pas dépasser 60%. Il y aurait ce prêteur-là qui serait entré en contact avec l'employé de Desjardins pour avoir les données. Par la suite, il y aurait eu également des courtiers hypothécaires, des courtiers en épargne et assurance qui auraient voulu recevoir ces données-là pour se faire se bâtir une clientèle. Alors que ce serait peut-être des professionnels de l'assurance et de l'immobilier qui auraient souhaité, par la voix de l'employé de Desjardins, avoir des données pour accéder à de la clientèle, des données qu'ils n'auraient pas eues par une autre façon, alors que le premier individu, au fond, n'aurait même pas profité tant que ça de ce vol de données-là. Je vous le mentionne encore une fois, il n'y a pas encore d'accusations qui ont été portées. L'individu, l'employé Desjardins, est considéré comme une personne d'intérêt, un sujet d'intérêt et un suspect par la Sûreté du Québec. Et les autres individus, il y en a plusieurs là-dedans qui ont été approchés, interrogés par les enquêteurs aussi. Mais on commence à voir plus clair un peu dans cette affaire qui a fait en sorte que 2,9 millions d'abonnés Desjardins ne pourront plus jamais dormir sur leurs deux oreilles quant à la protection de leur renseignement personnel. 5h presque 26, merci d'avoir été là dans l'amorce. Dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle. Moi, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et on se reparle mardi à 5h. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.